Chapitre 4. Depuis la nuit dont nous venons de parler, aucune nouvelle de monsieur et madame de Martigné n'était parvenue à la tour Robel. En quittant Germain à la lisière de la forêt, le comte lui avait promis de lui écrire dès son arrivée à Paris. À chacun de ses voyages à la poste de Rambouillet, le garde revenait les mains vides. Dans le pays, personne n'avait entendu parler du comte ni de sa femme. À Martigné, il ne restait pas pierre sur pierre. Il est dans la nature des âmes d'élite de s'attacher par le malheur. À mesure que le temps s'écoulait et que la position de mademoiselle de Martigné semblait devenir plus précaire, la famille du garde redoublait pour elle de soins et de tendresse. C'était d'ailleurs une charmante enfant que la nature avait créée belle pour être aimée, faible pour être protégée. « Dieu a voulu remplacer ce qu'il m'a pris, » disait Simone. Et Marie recevait un baiser maternel de la bonne paysanne. Quant à Antoine, la petite fille était devenue son idole. « C'est ma sœur, » répétait-il avec fierté. Dans leur jeu, dans leur plaisir, il se faisait l'humble serviteur de sa jeune compagne, cherchant à lui éviter toute peine, toute fatigue, la soignant comme une mère attentive. « Ses pieds sont trop mignons pour toucher la terre, » disait Antoine, et de ses mains il avait construit un petit chariot pour les promenades de sa sœur dans les sentiers du bois. Marie aimait les fleurs. Antoine, à grand-peine, déblaya un des côtés de la tour, défricha, piocha. Bientôt, un brillant parterre de roses et de jasmin poussa au milieu des ruines. Le jour de Sainte-Marie, toutes les économies d'Antoine passèrent à lui acheter une robe de soie. Il voulut qu'elle eût la nuance de la dernière robe qu'il avait vue à la ville. Marie, il faut le dire, ne se montrait pas ingrate de tant d'affection, et le nom d'Antoine ne sortait jamais de ses lèvres sans l'épithète la plus tendre. Le jeune garçon avait le matin son premier regard et le soir son dernier baiser. Simone et Germain n'étaient pourtant pas oubliés dans les caresses de la jolie enfant, et il n'était pas jusqu'au vieux curé qu'elle n'eût séduit par sa grâce entraînante. Le curé, il est vrai, avait acquis des droits à la reconnaissance de la petite fille. Voulant s'associer à la bonne œuvre de ses hôtes, il s'était chargé d'instruire leur protégé, comme il instruisait déjà leur fils, et chaque jour le voyait patient et résigné, assis entre ses deux élèves, leur enseignait l'histoire des hommes et la parole de Dieu. Tandis que ces scènes naïves se passaient à la tour Robel, d'autres scènes d'un genre bien différent avaient lieu sur le sol de la pauvre France. La liberté, qui avait déjà posé le pied dans une mer de sang, devait bientôt y nager tout entière. Les échafauds s'élevaient, les massacres se multipliaient. Enfin arrivèrent les épouvantables catastrophes du 21 janvier et du 16 octobre 1793. En apprenant la mort du roi, Germain resta comme fou pendant 8 jours. Lui et son fils voulaient aller à Paris satisfaire leur vengeance. Quand la terrible nouvelle du meurtre de la reine arriva à la tour, tous deux étaient absents pour la journée. En revenant le soir, ils aperçurent Marie que Simone avait enveloppée de vêtements de deuil. La pauvre femme pensait qu'Antoine ne s'y tromperait pas et que la vue de la petite fille pourrait seule faire supporter à son fils un si grand chagrin. « Mon père, » s'écria Antoine en pâlissant et se soutenant à peine, « voyez, ma marraine est morte !» Les cheveux de Germain se hérissèrent sur sa tête, il venait de se rappeler le rêve de sa femme. Malgré les caresses de Marie et les consolations que lui prodiguait sa famille, une fièvre violente s'empara du pauvre Antoine. Ce fut alors qu'on put juger de l'affection touchante que lui portait sa jeune compagne. Elle seule voulait le soigner, lui faisant boire ses tisanes, cherchant avec son souffle à rafraîchir ses tempes brûlantes, couvrant son lit de fleurs pour l'égayer, lui apportant la cage de ses oiseaux pour le distraire. « On jurerait d'une amoureuse, » disait en souriant Simone. Quelque temps avant la mort du roi, Germain, qui ne voulait pas garder les biens de la nation, ni servir d'escorte à messieurs de la municipalité de Paris lorsqu'il venait, en société des viragots de la Révolution, tuer les chevreuils et les daims de son maître, avait donné sa démission. Seulement il avait déclaré qu'il restait à la tour, et n'en sortirait que si on venait l'en chasser. Les assassins sont habituellement des lâches. On essaya bien 2 ou 3 fois d'attaquer la forteresse du garde, mais quelques coups de fusil bien dirigés de l'intérieur prouvaient qu'on paierait cher une victoire incertaine d'abord et dans tous les cas inutile. D'un autre côté, Germain était aussi aimé qu'estimé par les gens du pays. Depuis la naissance de son fils, il n'était pas une vieille femme ou un enfant qui n'eussent compté le soir à la veillée d'hiver, en regardant pitié un bon feu dans l'âtre, que le père Germain savait bien être aveugle quand il ne voulait pas faire de peine au pauvre monde. Ajoutons aussi que la réputation mystérieuse de la tour vint encore en aide à la sécurité de ses habitants et que plus d'un esprit fort en plein midi ne s'en serait pas approché volontiers passé minuit. Pourtant, si Germain avait mis tant de persistance à garder son vieux logis, ce n'est pas que le séjour lui en fût particulièrement agréable, bien au contraire. Depuis les malheurs de la France, depuis que sur tant de têtes jeunes et charmantes qu'avaient ombragé les vieux arbres du bois, un si grand nombre avait roulé au pied de l'échafaud, le garde répétait douloureusement « Ma pauvre forêt, elle ne m'est plus rien !» L'intérêt qui portait Germain à conserver sa vieille demeure, c'est qu'elle se trouvait sur la route de Bretagne et que déjà la Vendée commençait à s'agiter. Combien de fois la porte de la tour aux Belles s'ouvrit-elle pour recueillir un royaliste égaré, un serviteur des morts, fuyant vers le pays de la fidélité. Plus tard, le garde transmettait les ordres, protégeait les rendez-vous des chefs, faisant ainsi de la chouannerie à 13 lieues de Paris.